Bonjour, je m'appelle Guillemette, je suis journaliste à Ombres et Lumières, média spécialisé dans le handicap. Bienvenue dans le podcast La Lumière d'une rencontre, réalisé avec le soutien de la Fondation OCH. Tous les deux mois, je vous propose de rencontrer quelqu'un de concerné par le handicap, la maladie, ou de particulièrement sensible à ces sujets. Ce témoin nous partagera son histoire, parfois traversée par l'épreuve, et les chemins que la vie a pris pour la dépasser. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Charlotte de Villemorin. Cette jeune femme, brune et pétillante, est atteinte d'une maladie neuromusculaire. Mais entre son parcours de start-upeuse à succès et sa radicale conversion à la foi catholique, vous allez voir, elle détonne. Bonjour Charlotte.
Bonjour Guillemette.
Merci de me recevoir dans votre appartement à Pantin, près de Paris. Vous venez de fêter vos 33 ans, il y a quelques jours, je crois. Et donc vous êtes atteinte d'une maladie neuromusculaire qui s'appelle l'amyotrophie spinale, si je n'écorche pas voilà, ce nom. Alors d'abord, peut-être un peu derrière ce nom énigmatique, quel est votre quotidien concrètement ?
Alors mon quotidien concrètement, c'est que je suis née avec cette maladie neuromusculaire. Donc j'ai jamais marché, contrairement à certaines formes de myopathie. C'est pas aussi évolutif, l'évolution est beaucoup plus lente. Et en fait, j'ai jamais perdu la marche ou quoi, donc j'ai toujours été en fauteuil. Je suis passée de la poussette au fauteuil. Et en fait, j'ai besoin d'aide pour quasiment tous les gestes de la vie quotidienne. Je peux absolument pas marcher, j'ai pas du tout l'usage de mes jambes. Et j'ai un usage très limité de mes bras. Donc je pouvais manger seule jusqu'il y a quelques années. Mais ça, je n'y arrive plus non plus. Et du coup, j'ai besoin d'aide pour quasiment tout, sauf pour me déplacer avec mon fauteuil, du coup. Et pour me servir d'un ordinateur ou d'un téléphone. Ça, il n'y a pas de problème.
Et au pied de votre fauteuil, il y a votre labrador aussi.
C'est ça, j'ai un chien de l'assistance, un handi-chien qui a été dressé du coup pour aider une personne à mobilité réduite dans les gestes du quotidien. Et du coup, aujourd'hui, donc, j'habite seule dans un appartement. J'ai des jeunes filles étudiantes qui viennent m'aider pour vraiment les gestes de la vie quotidienne du soir au matin. Donc elles viennent m'aider pour... prendre ma douche, préparer le repas, voilà tout ça. Et pour les autres petits gestes où j'ai pas forcément besoin de la présence d'une tierce personne, mais que je peux pas non plus réaliser toute seule, j'ai effectivement India qui m'accompagne depuis maintenant 8 ans et qui typiquement ouvre la porte aux gens qui sonnent, ramasse un objet que j'ai fait tomber. M'apporte la télécommande de la télé, un objet sur une table, et ça me permet, c'est vraiment mes bras en fait, ce chien. Et du coup, elle me permet d'être beaucoup plus autonome en étant quand même seule chez moi. Et du coup, c'est un chien qui a le même statut que les chiens guides d'aveugles et qui du coup peut aller partout avec moi. Donc, dans tous mes déplacements, elle est toujours avec moi.
Ok, elle est précieuse. Et en fait, c'est elle qui m'a ouvert la porte tout à l'heure, en arrivant chez vous. À quel moment, peut-être, de votre vie, vous avez compris que voilà, ce handicap était une différence par rapport aux autres ?
Je pense que j'ai compris ça à l'école. En fait, mes parents se sont beaucoup battus pour que je puisse être scolarisée en milieu ordinaire et ont toujours refusé que j'aille dans un établissement spécialisé. Pour eux, c'était important que je sois entourée par d'autres élèves valides et que je me projette comme eux. Ce qui était, je pense, une vraie chance et un beau cadeau qu'ils m'ont fait. Mais du coup, c'est vrai qu'en grandissant entourée d'enfants qui peuvent faire des choses que moi, je pouvais pas faire, c'est vrai que là, je me rendais compte que... je ne pouvais pas avoir tout à fait accès aux mêmes choses qu'eux, notamment dans la cour de récréation. Quand j'étais petite, l'école qu'avait accepté de me prendre était un peu protectrice vis-à-vis de handicap et m'avait interdit d'aller en cours de récréation. Donc c'était un peu triste. Et du coup, je restais dans la classe avec une ou deux copines ou un ou deux copains. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce genre de petits détails qui, petit à petit, m'ont fait comprendre que je n'avais pas non plus tout à fait la même liberté que les autres.
Une autre étape dans cette découverte de votre différence se fait à l'âge de 7 ans. Vous êtes en classe et la réponse d'une camarade vous marque douloureusement et durablement.
Ouais, exactement.
Je vous laisse peut-être.
Et c'est vrai que la maîtresse avait demandé combien vous êtes d'élèves dans la classe. Et une fille, franchement, je devais avoir 7 ou 8 ans, hein, donc j'étais pas très âgée, mais la réponse de ma copine de classe était assez éloquente. Elle avait répondu « On est 23 plus Charlotte ». Et pour moi, ça a été un vrai choc. Je m'en rappelle comme si c'était encore hier. Parce que je me suis vraiment dit pour la première fois « Ah ouais, en fait, je suis pas comme les autres ». Ou en tout cas, elle me voit pas comme les autres. Alors que moi, je voyais pas... Enfin... Voilà, pour moi, c'était un choc et c'était une prise de conscience. Et c'est vrai que c'était assez marquant.
Et vous en avez fait part, je crois, à votre famille, à vos parents en rentrant.
Ouais, du coup, j'étais super triste et je suis rentrée en pleurant de l'école. Et c'est vrai que ma mère m'a écoutée, elle m'a consolée, mais assez vite. Elle m'a voilà, un peu secouée en me disant, mais en fait, ok, t'es triste, mais en fait, ça sert à rien de pleurer et ça va rien changer. Ça changera rien à la situation, donc arrête de pleurer et va de l'avant. Et en fait, c'est vrai que encore aujourd'hui, je me rends compte que quand j'ai des petits coups de mou ou des obstacles à dépasser ou des choses un peu difficiles à traverser, elle est toujours là pour accueillir mon chagrin, mais aussi me dire ok, maintenant on tourne la page quoi. C'est bon, il n'y a pas d'énergie à dépenser sur les trucs négatifs, ça c'est vraiment sa grande philosophie. Et en fait, je crois que c'est très vrai. Et comme elle me dit, franchement, si on devait s'arrêter à chaque fois qu'il y a un obstacle, on ne ferait rien, quoi. Et l'énergie, c'est une ressource qui est quand même limitée. Donc, il vaut mieux la consacrer à des projets positifs et sympas plutôt qu'à des trucs qui prennent la tête, qui nous arrêtent et en fait, qui ne nous font pas avancer. Et c'est vrai que je me rends compte maintenant que je suis adulte que je pense que j'ai vraiment développé grâce à mes parents cette capacité de rebondir hyper vite. Ça ne veut pas dire que je ne ressens pas la tristesse ou la douleur ou l'injustice quand elle est présente. Mais en tout cas, je sais très vite passer à autre chose, quoi.
Et toute cette énergie, voilà, vous l'avez déployée à travers de belles études, vous avez fait une classe prépa littéraire, puis une école de communication. Et vous commencez votre vie professionnelle en travaillant dans la publicité. Mais en 2014, voilà, l'année bascule peut-être, voilà, vous décidez de tout plaquer pour créer votre start-up. Alors en fait, racontez-nous un peu comment ça s'est fait, quel a été un peu le déclic.
Alors, c'est vrai que je travaillais en agence de publicité, je trouvais ça hyper stimulant sur plein de plans, notamment sur le plan social, puisque j'étais entourée de gens très cool, très avant-gardistes, sur le plan intellectuel aussi, puisque c'était assez intéressant. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait profondément dans le fait de consacrer autant d'énergie, autant de ressources, que ce soit humainement ou financièrement, pour des projets qui me paraissaient finalement très futiles. Et moi, je travaillais pour les marques de beauté et je me disais, mais c'est pas possible, quel est le sens de la vie de tous ces gens dont je fais partie, qui travaillent vraiment comme des malades jusqu'à minuit, plusieurs fois par semaine, pour des bouteilles de shampoing. Enfin, vraiment, c'était ça. Et je me disais, waouh, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Je pourrais peut-être être vraiment plus utile à la société en faisant autre chose. Et j'avais vraiment cet appel à être utile, à aller vers quelque chose qui avait du sens pour moi et pour les autres. Et en fait, j'ai eu un déclic, effectivement, à l'été 2014. J'étais invitée au mariage d'une copine qui avait fait attention à ce que tout soit accessible sur place pour mon fauteuil. Donc, église accessible, lieu de réception accessible et tout. Mais en fait, j'avais aucun moyen de me déplacer pour aller de la gare d'arrivée au lieu du mariage et de l'église au lieu de la réception. Parce qu'il n'y avait pas de transport adapté pour mon fauteuil dans la région où on allait. Parce qu'il n'y avait pas de taxi aménagé, parce qu'il n'y avait pas de voiture à louer. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est hyper frustrant parce que je ne vais pas pouvoir y aller, alors que c'est sûr que dans la région, il y avait une autre personne en fauteuil qui avait une voiture aménagée, qui ne s'en servait pas, et qui aurait pu me la prêter ou me la louer pour que moi, je puisse me déplacer. Et à l'époque, on entendait beaucoup parler d'économie collaborative, c'était vraiment le début du boom, et notamment de plateformes comme Drivey ou comme WeCar, qui proposaient du coup de la location de voitures entre particuliers, sauf que ils ne proposaient pas du tout de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil. Et c'était vraiment ça dont j'avais besoin, en fait. C'était d'un réseau solidaire pour permettre la mobilité aux personnes qui ont le plus besoin de voitures, c'est-à-dire aux personnes à mobilité réduite. Et du coup, là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, c'est évident, il faudrait que je puisse créer le réseau qui va me permettre de me déplacer et qui va permettre aux autres personnes concernées de se déplacer en louant des voitures à des gens qui en possèdent déjà et qui ne s'en servent pas tous les jours. Et du coup, c'est vrai que j'ai décidé de tout plaquer, de quitter mon boulot dans la pub et de créer cette plateforme qui s'appelle Wheelies et que j'ai développée pendant longtemps après.
C'est fou d'entendre ça, parce qu'on sait que le monde de la start-up, on l'imagine un peu à milieu du monde du handicap, qui est plutôt voilà, dans l'imaginaire collectif, synonyme de limite, de contrainte. Et vous, au contraire, vous avez voilà, eu cette liberté d'entreprendre, cette audace créative. Enfin, un peu d'où ça vient, ça, comme cette audace-là, comme...
Je pense qu'elle vient vraiment de l'éducation que j'ai reçue et du fait d'avoir été entourée par des élèves, des copains, des copines qui se posaient pas du tout de questions, en fait. Moi, je me projetais comme eux, il y a un peu un effet de mimétisme. Et du coup, bah, j'avais les mêmes rêves, les mêmes aspirations qu'eux. Et du coup, j'avais envie de faire des grandes études, envie d'avoir un boulot intéressant. Et je me suis jamais auto-censurée, en fait. Et j'ai jamais eu de croyances limitantes, comme on dirait maintenant. Mais c'est vrai que voilà, moi je me posais pas de questions, je me disais bah les autres ils font ça, donc pourquoi pas moi. Et je pense que j'étais même dans une certaine forme de déni, hein, par rapport à mon handicap, parce que ayant grandi dans un milieu 100% valide, je pense que j'avais même développé une forme de handiphobie, et je connaissais personne d'autre en fauteuil, je voulais surtout pas rentrer dans aucun réseau associatif de personnes handicapées, etc. Parce que ça me renvoyait une image de moi que j'avais pas. Et en fait, c'est marrant, mais c'est vraiment avec cette expérience, notamment d'entrepreneur, que les choses ont basculé et que je me suis réconciliée avec mon handicap, avec le handicap. Et on en reparlera peut-être un peu plus tard dans l'entretien, mais c'est vrai que ce chemin de réconciliation avec le handicap, en fait, il est toujours vivant. Il est toujours permanent. Je me rends compte en grandissant que, en fait, il y a plein de zones d'ombre que je n'avais pas vues, forcément, dans mon cœur par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à ce moment-là, au moment d'entreprendre, je ne me pose pas de questions, j'y vais. Et d'ailleurs, une des premières personnes à qui j'ai fait part de mon projet, c'était un ami d'amis de mes parents, voilà, qui s'y connaissait un peu en entrepreneuriat et qui m'avait très poliment écouté sur mon projet en prenant des petites notes et tout, et qui est rentré chez lui et m'a envoyé un mail pour me dire « Bon, j'ai réfléchi, l'entrepreneuriat, c'est un chemin semé d'embûches, c'est un vrai parcours du combattant. Donc, je pense que pour quelqu'un avec... votre condition physique particulière, guillemets, il vaudrait mieux s'abstenir, vendre votre idée à une plateforme comme Drivey ou WeCar qui fait déjà en fait ce que vous voulez faire, mais juste qu'il le fasse pour les personnes en fauteuil. Vendez-leur l'idée et puis ce sera plus simple pour vous, quoi. Et en fait, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais créer mon truc. Et c'est vrai qu'au début, j'ai été confrontée à des regards qui étaient un peu sceptiques par rapport au fait que, voilà, entreprendre, c'était quand même audacieux. C'est pas de tout repos. Et en même temps, ça donne énormément de liberté. Et à l'époque, c'est vrai que je pense que j'étais un peu pionnière dans le paysage de l'entrepreneuriat français sur le sujet du handicap. Mais les choses ont beaucoup, beaucoup évolué en 10 ans. Et je sens qu'il y a un peu l'émergence d'une handitech, comme on pourrait peut-être l'appeler aujourd'hui, y compris chez des entrepreneurs qui ne sont pas concernés directement par le handicap, mais qui se rendent compte qu'en fait, c'est un secteur qui a du sens pour innover. Et du coup, qui est assez intéressant et je pense gratifiant pour les gens qui s'y consacrent, parce qu'on se sait et on se sent utile quand on lance quelque chose là-dedans.
Oui, un secteur où on a besoin d'entreprendre et d'idées, quoi, d'avoir de bonnes idées. Ouais. Peut-être un peu à rebours de cette aventure entrepreneuriale qui a dû être extrêmement riche, peut-être ce que vous retenez de plus, à la fois, en effet, plus compliqué, enfin, vous soulignez déjà certaines difficultés, et aussi un peu ce qui a été peut-être le plus un peu galvanisant dans cette aventure.
Alors, c'est pas du tout un chemin linéaire. L'entrepreneuriat, j'ai eu des hauts très hauts et des bas très bas. Donc, c'est difficile de démêler tout ça. Mais c'est vrai que... En tout cas, ce qui était étonnant, je pense que c'est plutôt les choses étonnantes dont je vais vous parler, ou en tout cas étonnantes pour moi, c'est que, en fait, du jour au lendemain, moi qui étais un peu handiphobe d'une certaine manière, je me suis retrouvée désignée comme égérie un peu et porte-parole des personnes handicapées. Alors, sur des sujets où parfois j'y connaissais pas grand-chose, parce que c'est quand même... le handicap, c'est très large. Moi, je connais que ma réalité de personne en fauteuil. Enfin, voilà, c'est tout petit par rapport à la diversité des handicaps et des situations. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée un peu... dans les médias, très invitée pour parler de sujets liés à la mobilité, à l'inclusion, à l'accessibilité, à l'accès à l'emploi, à l'innovation, à l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est ça qui, petit à petit, m'a aussi permis de me réconcilier avec mon handicap. Parce que je me rendais compte que, en fait, il y avait vraiment besoin qu'il y ait des voix qui puissent être entendues et porter des messages essentiels, en fait, pour notre société.
Et vous avez donc revendu depuis Willys à APF France Handicap. Peut-être pourquoi avoir fait ce choix de...
Alors, en fait, Willys avait été un peu malmené par la crise du Covid, parce que d'un coup, notre activité qui consistait à permettre à des personnes en fauteuil de se déplacer s'est arrêtée du jour au lendemain. Et clairement, louer des voitures pour faire des sorties à des personnes qui sont fragiles sur le plan de la santé en période de pandémie, c'est vraiment le pire business. Donc, ça a été très difficile. J'ai dû mettre tous mes salariés au chômage partiel. C'était quand même éprouvant. Et moi, je sentais que ça faisait plus de 7 ans que je m'étais vraiment battue pour cette entreprise, que j'avais accompli aussi... plein de choses, mais en même temps je sentais que j'avais plus l'énergie qu'il fallait pour continuer d'être la bonne personne pour porter le projet. Et surtout, je me disais que j'avais accompli ma mission, dans le sens où j'avais eu l'idée, je l'avais créée, j'avais prouvé que ça fonctionnait, qu'il y avait un vrai besoin. On a quand même une communauté de plus de 20 000 utilisateurs réguliers et tout, donc c'était quand même un beau défi que j'avais réussi à accomplir. Et du coup, voilà, moi je considérais que j'avais accompli ma mission et que c'était mieux, et pour l'entreprise et pour moi, que je passe le relais à quelqu'un qui avait les épaules suffisamment larges pour pouvoir continuer de mener la barque là où il fallait. Et du coup, APF France Handicap, pour moi, c'était un choix qui avait du sens, parce que c'est la plus grosse et la plus ancienne association de défense des droits des personnes en situation de handicap. Et du coup, je savais qu'ils avaient des ressources et aussi la vision, d'intérêt général qu'ils allaient continuer de défendre.
Vous évoquiez tout à l'heure le rôle de porte-parole que vous avez endossé sans vraiment l'anticiper. La publication d'un livre en 2015 y a aussi fortement contribué. Alors, accrochez-vous pour le titre, je le cite. C'est « Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque », donc qui avait été publié chez Grasset. Alors aujourd'hui, début 2023, Charlotte, auriez-vous un message à faire passer ? Y a-t-il des sujets de société qui continuent de vous interpeller ?
Alors c'est vrai que depuis que je me suis mise un peu en retrait, j'ai moins l'occasion et aussi peut-être un peu moins l'envie. Là, en ce moment, je suis vraiment dans une phase plus de discernement où je me dis voilà, j'ai besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça pour bien choisir quelle sera ma prochaine mission, là où est-ce que je me sens vraiment appelée dans la sphère professionnelle. Mais c'est vrai que je suis encore régulièrement sollicitée. C'est plutôt l'actualité en fait qui définit les sujets sur lesquels on m'invite à prendre la parole. Alors en ce moment, on parle beaucoup des Jeux Olympiques qui vont avoir lieu à Paris. Et il y a beaucoup d'enjeux d'accessibilité, aussi de quel héritage les Jeux vont permettre de léguer à la ville de Paris et aux villes qui vont accueillir les Jeux en termes d'accessibilité, d'inclusion. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels... j'interviens encore régulièrement et puis des sujets où je prends peut-être moins la parole mais qui m'interpellent aujourd'hui en 2023 et je réfléchis à quelle est la juste manière de parler de ça, mais c'est les sujets liés à la fin de vie où c'est vrai que voilà, je me dis en tant que personne dont le corps est très dépendant, même 100% dépendant et dont l'existence est assez vulnérable. J'ai l'impression d'avoir une vie qui est tellement riche et je vois tellement de mes copains qui, eux, sont en parfaite santé, qui, sur le papier, ont tout pour eux, qui sont super beaux, super athlètes, super riches, qui plaisent à toutes les filles, qui sont hyper intelligents, enfin voilà, et qui sont hyper malheureux. Pour moi, c'est évident qu'en fait, on ne peut pas faire de lien entre la capacité à être heureux, la vocation au bonheur et une condition physique. Et que ce n'est pas parce qu'on a une vie qui est fragile et qui est loin des critères de performance que nous impose la société, que ce n'est pas une vie qui mérite d'être vécue, bien au contraire. C'est une vie qui est hyper riche. Et c'est vrai que moi, je me dis, mais... dans la vie en général, tout ce qui est rare et précieux a de la valeur en termes, quand on parle d'objet, enfin voilà, un objet atypique, il va valoir beaucoup plus cher. Pourquoi est-ce qu'une existence atypique, pourquoi est-ce que les vies atypiques et différentes sont autant dépréciées alors qu'en fait c'est aussi super précieux, c'est rare, ça donne un point de vue sur la vie et sur les choses différents. Et du coup, voilà, c'est aussi des sujets auxquels je réfléchis.
Et si on va en effet encore un peu plus loin, si ça n'empêche pas d'être, enfin le handicap n'empêche pas d'être heureux, et est-ce que même, arrêtez-moi si c'est ça va un peu loin, mais est-ce que ça permet pas parfois aussi aux autres d'être heureux ? Enfin,
bah moi je suis convaincue que en tout cas la dépendance physique, elle ouvre une porte pour une relation de don, d'aide, de prendre soin qui est très précieuse et qui, je pense, est très précieuse pour l'autre. C'est vrai que voilà, j'avais eu un long échange avec un prêtre à qui j'avais demandé le sacrement des malades il y a quelques années, à un moment où j'ai perdu la capacité de manger du jour au lendemain et ça avait été assez dur pour moi à accepter. Et j'avais demandé le sacrement des malades et il avait eu cette très belle réponse de me dire, en fait, ta maladie, tu te rends pas compte à quel point ta maladie, elle nous aide et elle nous permet de t'aimer. je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais en fait, maintenant, je comprends que c'est vrai que ça crée une porte d'entrée qui est très privilégiée pour entrer en contact très profondément avec les gens. Et en fait, le fait de devoir demander de l'aide pour manger, c'est très bon pour mon humilité déjà, parce que ça implique de s'asseoir un peu sur son petit orgueil. Et en même temps, ça permet vraiment à l'autre de se donner. Et cet été, je suis allée pour la première fois au pèlerinage national à Lourdes. J'étais pas très à l'aise quant au positionnement que j'avais en faisant ce pèlerinage, parce que je voulais pas y aller en tant que malade. En même temps, j'étais pas trop sûre de pouvoir aider. Enfin, j'étais un peu perdue, j'arrivais pas trop à me considérer comme une malade. Et en fait, le Seigneur a eu vraiment une pédagogie très claire, comme souvent il peut avoir. Et l'ascenseur de l'hôtel que j'avais réservé est tombé en panne. Du coup, j'ai plus pu dormir dans ma chambre et j'ai dû me retrouver contrainte d'être hébergée au sein d'un accueil de personnes très malades au centre du sanctuaire. Et alors que c'était vraiment là où je voulais pas aller. Et en fait, en prenant mes repas avec tous ces gens, je me disais, mais est-ce que je suis comme ça? Je sais pas, ça m'interrogeait. J'ai vu une jeune femme avec un handicap mental très lourd, qui arrivait pas du tout à parler, à communiquer et tout, qui s'est vraiment presque jetée sur moi, avec un grand sourire, et qui était super contente de voir qu'elle allait pouvoir m'aider à manger. Et en fait, j'ai compris là ce qu'il voulait dire, ce prêtre. Et en fait, j'ai compris que le fait que moi, je sois dépendante, ça laissait aux autres la possibilité de se donner. Et qu'en fait, c'est notre vocation profonde, hein, je crois, c'est de se donner. Et cette jeune fille qui, elle-même, avait été objet un peu de la charité des autres, d'un coup, se retrouvait dans une nouvelle position, nouvelle posture, où elle pouvait faire quelque chose pour moi. Elle pouvait m'aider à manger et vraiment, elle était tellement lumineuse à ce moment-là. Elle s'est vraiment allumée. Je me suis dit, mais en fait, ma maladie, elle sert vraiment à ça, quoi.
J'imagine que toute cette réflexion a été le produit d'un cheminement aussi assez long et c'est pas fait du jour au lendemain. Vous avez commencé un peu à l'aborder, mais on va revenir à l'été donc 2014. Ce fameux été, décidément. Donc vous êtes invité au mariage d'une autre amie. Et à cette époque-là, vous êtes plutôt un peu rebelle, un peu punk, un peu anti-catho, enfin tout ce qu'on peut mettre autour. Qu'est-ce qui se passe pendant cette messe?
Alors, c'est vrai que cet été était quand même riche en révélations et en conversions professionnelles d'abord et spirituelles aussi. À ce deuxième mariage, et c'est vrai que, alors vous l'avez bien dit, moi j'étais super rebelle, très en colère contre l'église, la religion, je comprenais pas très bien. J'étais très contente dans mon petit milieu de pubard, très cool, très matérialiste, très athée et très anticléricale. Et en fait, cette amie était, elle, très catho, très croyante. J'y allais un peu en traînant les pieds en me disant « Oh là, ça va être long, ça va être pénible. Il va y avoir des gens coincés, ça va pas être fun. » Et en fait, j'ai d'abord été très touchée. J'avais l'impression de pouvoir voir sa foi vraiment qui irradiait d'elle pendant la messe. Et je me suis dit « Ah, en fait, il y a vraiment des gens pour qui ça veut dire quelque chose. » Enfin, ça me paraissait... mystérieux, et j'étais à mille lieues de ça à l'époque. Et puis en fait, j'ai passé une super soirée. J'ai passé vraiment, je pense, une des meilleures soirées de ma vie. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de préjugés, que moi qui pensais que les cathos étaient des gens fermés et pas ouverts d'esprit, c'était clairement l'inverse. En fait, c'était moi qui étais hyper fermée d'esprit, pas du tout ouverte. Et donc, ça a été un peu une remise en question. Et je me suis dit, mais en fait, ces jeunes qui sont là, qui sont croyants, ils ont un truc que mes potes et que moi-même, je n'ai pas. Un truc qui fait qu'ils ont l'air sains, stables, heureux. Ils ont l'air de savoir d'où ils viennent et où ils vont. Qu'est-ce que c'est, quoi? Et du coup, je suis rentrée chez moi en me disant ben, « Peut-être ça vaudrait le coup d'aller une fois à la messe pour voir. » Pour voir. Vraiment, librement, mais par curiosité. Je me suis dit, je me laisse une chance, quoi. Vraiment comme ça, ou peut-être je laisse une chance au Seigneur. Et du coup, je suis allée à la messe un dimanche soir à Saint-Germain-des-Prés. C'était pendant les vacances d'été. Et donc, je me suis dit, ah, c'est beau, il y a des beaux chants, sympa, voilà. Sans plus, mais plutôt agréablement surprise. Et je me suis rappelée qu'il y avait quand même un moment que je détestais dans la messe, c'était la paix du Christ. Ce truc m'angoissait quand j'étais petite, je trouvais que c'était très gênant. Et je voyais ce moment arriver et je me disais, ah non, mais c'est vrai que quand même, non, mais cette paix du Christ, c'est trop pénible, quoi. Mmh. Franchement, c'est nul. En fait, non, je me rappelle pourquoi j'aimais pas la messe. Et là, très surprise et un peu double peine, non seulement la paix du Christ arrive, mais en plus, le prêtre descend du chœur et vient me donner la paix du Christ. Donc, grosse affiche, je me disais, oh là là, mais c'est pas possible. En fait, je pense que ce prêtre a vraiment été habité par l'Esprit Saint à ce moment-là, parce qu'il s'est passé un truc super bizarre, je me l'explique toujours pas. Il s'est écrié, vraiment, en me donnant la paix du Christ, « Ah, tu es venu ! Je suis tellement content que tu sois venu !» Que, en fait, moi, je suis restée pétrifiée, et je me suis dit, mais ce gars, je le connais pas, enfin, je l'ai jamais vu, il sait pas qui je suis. C'est pas lui qui parle, c'est Dieu le Père qui s'exprime et qui me dit « Je suis content que tu sois venu, je suis tellement content que tu sois venu. » Et en fait, j'ai vraiment fait l'expérience de la miséricorde de Dieu à ce moment-là, de la joie qu'il avait à retrouver une de ses enfants dans sa maison. Et là, ça a été vraiment un bouleversement radical, toute ma vie s'est trouvée chamboulée. Et je me suis dit, en fait, c'est ma place, elle est là. C'est là que je dois être, en fait. Et du coup, je me suis convertie un peu radicalement à 24 ans. Et j'ai entamé tout un processus, du coup, de redécouverte de la foi, de redécouverte de l'Église. Et qui m'a amené bien plus loin que je ne l'aurais jamais cru.
On va voir ça ensuite. Et en effet, donc c'est en 2018 que vous recevez le sacrement de confirmation, parce que vous étiez donc déjà baptisée.
Oui, en fait, j'étais baptisée, j'avais fait ma première communion petite. J'ai reçu une éducation chrétienne, en fait, parce que j'étais à l'école privée catholique. Donc, j'ai reçu un enseignement religieux, mais qui m'est vraiment passé complètement au-dessus de la tête, voire même qui m'a un peu saoulée, voire dégoûtée. Et donc, c'est vrai qu'il y a des graines qui ont été semées sur mon chemin, mais qui ont vraiment mis du temps à germer, quoi. Je pensais que ça pousserait jamais et qu'il n'y avait rien, en fait, alors qu'en fait, si. Et du coup, oui, j'ai redécouvert tout de suite après ma conversion, je me suis dit, bon, il faut quand même que je me reforme parce que je me souviens vraiment rien, c'était blackout total de ce que j'avais reçu petite. Et du coup, je me suis inscrite à Even à Paris, un groupe de prière et de catéchèse pour les jeunes étudiants. Du coup, je suis allée là-bas, je me suis formée, ça m'a beaucoup plu. J'ai commencé à fréquenter l'église qui était vraiment en face de la fenêtre de ma chambre à Paris. J'habitais dans le 19e arrondissement. Et en fait, c'était une église toute moderne qui ne ressemblait pas à une église. Je ne m'étais jamais vraiment demandé ce que c'était, et c'était une église. Et du coup, j'ai commencé à aller à la messe là-bas. J'ai découvert une église très multiculturelle, avec des gens qui venaient vraiment de toute la planète. Beaucoup d'Africains, beaucoup d'Antillais, beaucoup de Tamouls. Enfin voilà, des gens qui venaient vraiment de partout. Des célébrations super joyeuses, super vivantes. Une petite communauté, mais où du coup, tout le monde se connaissait. Et je me suis mise à servir localement l'église. En donnant des petits coups de main à l'aumônerie des collégiens. Effectivement, j'ai fait ma confirmation après en 2018 à Paris. Et j'ai vraiment découvert la joie de faire partie de l'église, de vivre la fraternité universelle et de servir l'église dans un environnement très populaire et très pauvre aussi.
Et vous faites un plongeon ensuite encore plus radical que ça ne s'arrête pas là, puisqu'en mai dernier, Donc, vous êtes devenue vierge consacrée. Et alors, peut-être d'abord, concrètement, un peu, qu'est-ce que c'est? Et racontez-nous aussi un peu voilà, cet appel que vous avez vécu.
Alors, je vais peut-être commencer par raconter l'appel avant de vous raconter ce que c'est. Parce que moi-même, quand j'ai reçu cet appel, je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est vrai que voilà, moi, je pensais que ma petite vie chrétienne allait s'arrêter là. Elle était sur un bon chemin, hein, c'était confortable. Et puis 2020 a été une année de grosse crise pour moi, de grosse remise en question. Parce que comme je le disais tout à l'heure, très difficile professionnellement à cause du Covid. Je voyais pas le bout du tunnel. Je savais pas comment gérer la situation avec mes salariés qui étaient sans emploi. Moi-même, je sentais que j'étais un peu fatiguée. Je me suis fait virer de l'appartement où j'habitais dans le 19e par le propriétaire qui a voulu le récupérer. Et je trouvais pas d'appartement accessible dans mon budget pour me reloger. Donc j'étais vraiment, vraiment perdue. Je commençais à avoir des lubies, je pense, un peu liées au confinement, où je pétais un peu des plombs. Je me disais, mais en fait, pourquoi pas tout plaquer et devenir agricultrice après tout. Des agricultrices en fauteuil, il n'y en a pas beaucoup, ce serait une bonne idée. Non, ce serait pas une bonne idée. Enfin voilà, je commençais vraiment à chercher ma voie. Et j'ai vraiment prié. Je me rappelle avoir prié de manière particulièrement intense le Seigneur en demandant, ok, Seigneur, en fait, c'est quoi ton projet pour moi? Je comprends pas où est-ce que tu m'attends. Je comprends pas si tu m'attends dans telle ville, dans tel métier. Dis-moi, où est-ce que tu m'attends? Et quelques jours après, ma grand-mère, qui était la seule à avoir la foi dans ma famille, est décédée. Et ça a été encore plus dur pour moi. Donc, on l'a enterrée. Et je pense qu'elle a vraiment intercédé pour moi. Parce que le premier dimanche après son enterrement, tout ça, ça s'est passé en 15 jours, hein, c'était très rapide. Premier dimanche après son enterrement, je me suis retrouvée à attendre que la messe démarre à la télé, parce que c'était messe en visio à l'époque, on ne pouvait plus accéder aux églises. Donc j'attendais que la messe démarre, et en fait là, j'ai entendu une voix, vraiment, littéralement, qui m'a dit « Vierge consacrée ». Et je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais jamais entendu ce mot de bouche humaine. Jamais. Je ne savais pas ce que c'était. Ça ne m'évoquait rien. Et surtout, pas un truc chrétien, quoi. Vierge consacrée, moi, j'imaginais qu'on allait sacrifier des vierges pour le Minotaure dans l'Antiquité. Enfin, vraiment, ça ne m'évoquait pas du tout ce que c'est. Et c'était tellement clair, tellement précis, tellement dérangeant, ce mot, vierge consacrée, qui m'est apparu comme ça d'un coup, que j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé pendant que la messe avait démarré sur la page Wikipédia qu'est-ce que c'est que les vierges consacrées. Et du coup, j'ai découvert ce que c'était et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable. Je ne savais pas que ça existait. C'est trop beau. En fait, c'est la plus vieille forme de vie consacrée pour les femmes qui existe, bien avant que les femmes soient des religieuses en communauté, etc. En fait, les premières femmes qui ont décidé de suivre le Christ dans les tout premiers siècles, c'était des femmes qui se consacraient à Dieu, à l'annonce de l'évangile, à une vie conforme à l'évangile, au service des pauvres, de l'église, etc. Mais qui restaient complètement dans le monde, qui restaient indépendantes et qui faisaient vœu de chasteté, de servir l'église et de prier, tout en étant dans le monde normal. Et je me suis dit, mais c'est fou, parce que moi, je m'étais toujours dit, jamais je serai religieuse. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon livre quand j'avais 24 ans, avant de croire en Dieu. Je pensais que la vie religieuse impliquait forcément une vie communautaire, de porter un habit, d'avoir un charisme particulier. Et en fait, là, je découvre qu'il y a une manière de tout donner au Christ qui me laisse aussi une liberté totale de faire ce que je veux, de travailler dans le domaine que je veux, d'habiter où je veux, de m'habiller comme je veux. Et en fait, je me dis, mais c'est ça la réponse peut-être de Dieu à ma question. Et j'ai vraiment rien écouté de la messe. Et j'ai juste entendu une parole du prêtre au moment de la prière universelle qui disait « Seigneur, en cette journée mondiale de prière pour les vocations, nous te prions. » Et là, ça a fait tilt et je me suis dit « Bah, en fait, c'est ça ma vocation. » En fait, c'est ça la réponse de Dieu pour moi. Là où il m'attend, c'est pas dans un appartement précis, c'est pas dans un métier précis, il s'en fiche. ce qu'ils me proposent, c'est un chemin de bonheur radical et hyper large. Et c'est le chemin de la virginité consacrée. Et du coup, c'est vrai que j'ai été consacrée au mois de mai pour le diocèse de Saint-Denis.
Et concrètement, donc, depuis cette consécration, est-ce qu'il y a votre quotidien a changé ? Est-ce qu'il y a des rituels qui rythment votre vie ou pas ?
Alors, c'est hyper frustrant de répondre à cette question parce que, dans les faits, ça ne change rien. C'est-à-dire que je n'ai pas de signe distinctif, si ce n'est un anneau, une alliance que je porte à la main parce qu'on est, du coup, je suis devenue épouse du Christ. Mais c'est vrai que j'ai pas changé de lieu de vie, j'ai pas changé de... Enfin voilà, mon quotidien en tant que tel n'a pas changé. Et cette consécration, elle a fait que renforcer et confirmer d'une certaine manière tout ce que j'étais déjà. Si ce n'est que j'ai quand même... fait un choix radical qui est le choix d'épouser le Christ, donc de renoncer à une vie amoureuse, affective, d'avoir des enfants, etc. Et que je me suis engagée aussi à une vie de prière. Donc les Vierges consacrées ont pris la liturgie des heures, donc les laudes, les vêpres, les complis, quotidiennement. Et on a vraiment cette mission première de prière et d'intercession.
Et ça a été des renoncements difficiles à poser ou c'était...
C'est pas difficile à poser dans le sens où j'étais quand même très volontaire hein, pour m'engager. Et j'ai aucun doute quant au fait que c'est vraiment pour moi le chemin de l'épanouissement. Je pense que... Je sais pas, je me dis peut-être que j'aurais été... plus frustrée dans une vie conjugale, enfin je sais pas, mais c'est vrai que en même temps c'est un peu surnaturel comme appel dans le sens où ben voilà on est quand même aussi fait pour aimer, pour donner la vie et en fait c'est la vocation de vierge consacrée, on dit que c'est d'être vierge, épouse et mère et du coup tout l'enjeu, c'est de trouver les bons lieux, les bons domaines pour pouvoir manifester cette dimension d'épouse différemment et de mère, en fait, d'être mère différemment, de manière spirituelle, d'avoir une fécondité, mais qui passe pas par le fait d'avoir des enfants.
Et tout ce chemin de foi, est-ce que ça a transformé aussi votre façon de voir votre propre handicap ? Est-ce que ça lui a donné une autre dimension ?
Alors en fait, je pense que c'est pas vraiment... En fait, c'est plutôt les événements et les circonstances qui, en parallèle de ce chemin de foi, m'ont amené à changer un peu de regard. Mais c'est vrai que... Voilà, typiquement, donc, j'ai reçu cet appel en mai 2020. Et en novembre 2020, j'ai quand même eu un gros basculement dans ma vie. C'est que du jour au lendemain, j'ai plus pu manger seule. Ce qui, pour moi, était super humiliant, en fait. Parce que, en plus, avec la vie active, professionnelle, sociale, très riche que j'avais... Pour moi, de demander à ce qu'on me donne à manger, c'était quand même c'était très dur. Et je pense qu'en fait, ça faisait vraiment partie, une fois de plus, de la pédagogie de Dieu, de me faire prendre conscience que j'avais perdu une capacité, mais qu'en fait, j'allais découvrir plein d'autres choses et recevoir plein de grâces. Et je pense notamment... une vraie grâce de l'humilité dans la maladie où j'ai vraiment senti que, notamment peut-être par le sacrement des malades, j'avais un peu malgré moi, mais quand même de manière très libre et dans la paix, appris à être moins orgueilleuse dans mon rapport à la maladie, c'est-à-dire à beaucoup plus facilement accepter de devoir demander de l'aide. Ça revient un peu à mendier. Et en fait, c'est bon pour la vie spirituelle, vraiment. Et aussi, demander de l'aide à Dieu. Et en fait, je prends de plus en plus conscience que j'ai vraiment besoin des autres, mais j'ai vraiment besoin que Dieu me relève sans cesse, quoi. Et du coup, je suis beaucoup plus en paix avec ça, et limite, plus je m'affaiblis physiquement, plus j'ai l'impression de découvrir des vraies pépites spirituelles qui changent complètement mon regard sur la vie, mais même sur mon propre corps, quoi.
Et est-ce que dans ces moments-là, il y a aussi quand même des moments de... Enfin, pas de colère, mais t'entends, bon, Dieu, pourquoi tu m'envoies ça aussi ? Enfin, est-ce qu'il y a aussi dans ce dialogue avec Dieu, c'est ces questions-là qui jaillissent parfois ?
Oui, bah, je pense toujours. Et ça m'arrive d'avoir des vraies colères et des vrais moments de tristesse ou d'épreuve. Même si c'est pas directement lié à la maladie, hein, dans d'autres domaines. Et en même temps, je sais aujourd'hui que bah, dans l'intimité que j'arrive à avoir avec Dieu, je reçois vraiment des lumières énormes, quoi. Énormes, énormes. Et en fait, ça n'a pas de prix. Et du coup, voilà, je rends grâce à Dieu parce que je sais que quand il y a une épreuve, souvent après, il y a une lumière qui va avec, quoi.
Et peut-être pour terminer, mais est-ce qu'il y aurait un texte des évangiles ou une prière, une figure spirituelle à laquelle vous êtes un peu attaché, qui vous habite particulièrement, soit aujourd'hui, là, maintenant, ou qui vous a habité pendant longtemps, qui voudrait nous partager ?
Moi, j'aime beaucoup la résurrection de Lazare. Parce que je trouve que c'est vraiment une invitation à l'espérance au-delà de toute vraisemblance. Et je me dis combien de fois dans nos vies, on croit que c'est foutu, que en fait là c'est mort. Et dans la résurrection de Lazare, c'est mort au sens propre, hein, genre... Vraiment, Lazare, il est enterré, il est dans son caveau. C'est mort, quoi. Il n'y a plus rien à espérer. Et ses sœurs, elles sont meurtries par ce deuil. Et elles se disent, mais en fait, t'as pas été là, Seigneur. Si t'avais été là à temps, ce serait pas arrivé. Et alors que vraiment, c'est mort depuis 4 jours, en fait, Jésus arrive et lui redonne la vie, alors que c'était inespéré. Et je me dis, en fait, c'est vraiment un bon exemple à garder au fond de son cœur quand on croit que tout est foutu et qu'il n'y a plus de raison d'espérer. En fait, si. C'est jamais fini, quoi.
Un grand merci, Charlotte Desvignes-Morin, pour cet échange. Merci de nous avoir embarqués dans... plein d'aventures entrepreneuriales, humaines et spirituelles qui vraiment nous donnent foi en la vie.
Merci à vous.
Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Lumière d'une Rencontre, le podcast réalisé par la revue Ombres et Lumières et la Fondation OCH. Merci de l'avoir écouté. Si ces thèmes vous intéressent, je vous invite à découvrir notre revue en allant sur ombreseslumieres.fr. À bientôt.